Et en fait, ce n'est pas sur la chaîne L'Équipe, mais sur le site de L'Équipe, où tous les dimanches à 19h, il y a un match de retransmis.
Et bien voilà, c'est la fin de l'émission Génération Sport. On vous remercie d'avoir écouté l'émission. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée sur Radio G. Bonne soirée. 101.5 FM.
Ça y est, c'est enfin la reprise pour L'Équipe de Calibre 58. Une reprise certes tardive, mais de qualité, avec de jolis changements, histoire d'élever encore un peu plus le niveau de cette émission d'une qualité déjà indéniable. Nous sommes toujours en mode confiné et devons donc pour le moment négliger le direct. Mais bon, il suffit d'un peu d'imagination pour que vous nous représentiez tous assis autour d'une table ronde, un casque sur les oreilles, un micro devant nous, pour presque une heure de débat et chronique d'un noir intense. Quant à vous, nous vous savons réfugiés dans votre salon, assis confortablement devant votre poste de radio, un verre salutaire à portée de main, libre de toute pression sanitaire. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM et vos habituels complices sont avec vous, Linda, Luc et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour.
Eh oui, j'ai oublié de demander un bonjour enregistré à mes chroniqueurs préférés, et c'est encore moi qui m'y colle. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre, et maintenant, générique maestro. écoutiez Maastricht Rock, une originalité musicale du festival Les Encres Noires du Havre en date de 2004 pour leur album Polaroid Rock. Maastricht Rock, ou la rencontre improbable entre le musicien Elliot Murphy et l'écrivain Didier Denynx. Cette année, nous aurons quelques changements dans cette émission forcément de haute tenue. Nous aurons en filigrane l'interview d'un auteur qui vient de sortir un livre qui fait du bruit. Par ailleurs, Linda et Toups nous feront l'honneur d'une chronique alternative et alternée. Pour Linda, ce sera Sueur froide, une chronique sociale donc engagée à partir d'un livre qui trouve un certain écho avec l'actualité. Quant à Toups, il nous promet des immersions musicales intelligentes avec sa Jazz Baby. Luc, lui, sera notre mémoire collective et intellectuelle grâce à sa chronique « On n'achève pas les classiques ». Bien entendu, nos débats passionnés et passionnants autour du cinéma et de la bande dessinée seront toujours au rendez-vous. Pour l'heure, nous accueillons le romancier Dominique Maison. J'ai rencontré cet auteur de 6 romans dans le 5e arrondissement de Paris, entre la librairie L'Amour du Noir et une brasserie. Nous nous sommes entretenus le temps d'un déjeuner sur la sortie de Avant les Diamants, un roman aux influences hollywoodiennes, donc forcément cinématographique, qui nous plonge dans les années 1950 sur fond de bombes atomiques, de macartisme, de films noirs et de petites et grandes escroqueries. Le roman est publié à La Martinière. C'est un joli pavé de 500 pages truffé de références de genre, le genre que forcément j'apprécie. On commence par un rapprochement avec En quatrième vitesse de Robert Aldrich sur fond d'explosion atomique. Ne faites cependant pas attention au bruit de fond.
Il y a une mallette hein, qui se trimballe.
Ah bah elle explose à la fin dans En quatrième vitesse, mais moi c'est juste un point de décor, enfin qui montre la folie de l'époque. Je trouve que c'était assez, que c'était une bonne entrée en matière, on comprenait que l'époque est... qu'il fallait abdiquer beaucoup de nos critères contemporains si tu voulais comprendre ce qui se passait, ce qui se disait, ce qui se faisait à l'époque. Qu'il fasse péter des bombes, c'est quand même complètement dingue. À 150 km de Las Vegas, 150 km de Las Vegas, ils ont fait 10 essais atomiques de 53 à 59, je crois. Le Upshot Nuttall, là, c'est une série d'une dizaine d'essais dont le plus puissant était une quinzaine de fois Hiroshima. À 150 bombes de Las Vegas. Et vraiment, les gens à Vegas, quand je suis tombé là-dessus, j'y croyais pas. Hein. Je croyais que c'était un fake, je croyais que c'était une blague. J'ai vu passer des photos, tu voyais des gens dans Las Vegas, dans la rue, festif, hein, avec des banderoles et tout, avec le champignon nucléaire au bout de la rue. Qu'on voyait à 150 bornes, le truc il monte à 30 km de haut, on le voit, ça devient super bien. Si c'est dégagé, il voyait super bien. Donc les mecs faisaient des fêtes, ce qui est dans le bouquin, hein. Ils faisaient des fêtes, des atomic bomb parties pour regarder le truc péter, et, oh la belle bleue. Mais ça, avec leur garde aujourd'hui, ça paraît mais complètement délirant, quoi. Les militaires américains, eux-mêmes, ça veut pas dire que c'est pas des sadiques, hein. Ils étaient à 10 km, les premiers bunkers, où ils allaient regarder les essais avec leurs jumelles. Et dans les comptes rendus, tu vois, les mecs, ils rigolent parce qu'ils disent « Oh, au moment de l'explosion, c'est formidable, j'ai vu tous les os à travers de ma main. » C'est vrai que tu vois ça. Le mec, il vient de se prendre des becquerels, il est à peu près sûr d'avoir un cancer, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, hein. Mais il va pas s'en remettre, hein, les radiations qu'il a prises. Les mecs, ils étaient tout contents de célébrer ça, c'était la fête. Ils avaient juste pas conscience de l'impact de la radioactivité, c'est tout. Enfin, tout est un peu... Quand tu regardes cette époque aux États-Unis, dans sa démesure et sa folie, c'était un peu des apprentis sorciers, mais aussi avec l'esprit des gens. Enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le bouquin, hein. C'est que la folie consumériste dans laquelle ils ont voulu lancer le monde, qui a été leur modèle, leur manière de lutter contre la propagation des idées communistes, etc., leur modèle de société, d'étouffer à ce point toutes les revendications, que ce soit les relations raciales, les revendications sociales ou les revendications féministes, d'étouffer, de poser ce modèle de société qui est celui des années 50, et on retrouve encore quelques nostalgiques de société des années 50 dans la France d'aujourd'hui, ce qui peut me sembler étonnant, donc je peux encore des nostalgiques, d'imposer ce modèle de société, c'était aussi, à mon sens, une expérience scientifique extrême et paradoxale. Mais ça n'a pas tenu.
Le roman développe son intrigue autour de l'intervention des militaires dans le cinéma. Ils entendent damer le pion au grand studio en donnant des fonds à un réalisateur indépendant qui leur mâchera leur travail de propagande. Entre deux mastications, écoutons ce qu'en dit Dominique Maison.
Est-ce que quand tu auras la bouche un peu vide, tu pourras nous parler de quelque chose qu'on ne connaît pas trop et que tu développes dans le roman ? Parce que nous, évidemment, sur le cinéma, on connaît l'histoire du Code Hays. l'intervention des militaires dans la morale du cinéma comme outil de propagande, ça nous on la connaît pas forcément.
Bah c'est il y a, tu regardes les chiffres, hein, c'est assez factuel. L'armée américaine a coproduit plus de 2000 films américains depuis la guerre. C'est quand même considérable. Et tu vois, le fonctionnement des studios est assez simple. Enfin, de l'armée américaine est assez simple. À partir du moment où ils coproduisent, ils invalident le scénario. Et quand ils coproduisent, tous les films de guerre, pratiquement, les exceptions sont extraordinairement minoritaires, tous les films qui mettent en scène des soldats, où tu vois du matériel militaire américain, tu peux être sûr que le film n'aurait pas eu lieu si l'armée n'avait pas coproduit, parce que le rapport n'est jamais financier, il est toujours en matériel. Donc ils fournissent le matériel pour faire le film, et en échange, ils mettent leur coup de tampon sur le cinéma. Quand tu vois à quel point ils sont tatillons sur l'écriture des scénarios, il y a des documentaires sur le sujet, des scènes d'écriture, à quel point ils peuvent pinailler sur des détails. Le scénario de Tant qu'il y aura des hommes, il est assez éloquent, le parcours de ce film-là. Tu prends le roman originel, le propos originel, et la version, quand tu regardes le film, la version qui a fini par être tournée, tu te rends compte à quel point le point de vue sur l'armée américaine et sur les événements de Pearl Harbor ont été modifiés pour transformer complètement l'appréhension que peut avoir le public de l'armée américaine et de l'État américain à ce moment-là, d'un livre qui décrivait une sorte de relâche morale des troupes parce que Hawaï il fait beau, parce que infidélité, parce que belle fille, parce que insouciance humaine, hein, frappée par la terreur de l'attaque de Pearl Harbor, ils gomment complètement l'insouciance, ils gomment l'immoralité, les relations extra-conjugales sont juste évoquées et punies et regrettées. Les bordels où avant les militaires deviennent des clubs de danse, enfin tout est comme ça. L'attitude de l'armée, des supérieurs de l'armée, est toujours bienveillante, positive, pardonne, fait avancer, remet les gens blancs. À aucun moment l'État, voilà, l'état de l'armée tel qu'il est décrit dans le livre, qu'un grand auteur apparaît, ça devient un film pour s'engager dans l'armée. Enfin, l'armée américaine est magnifiée. Alors qu'à la base, on est vraiment un livre. Donc, qui était plutôt anti-militariste et qui portait une critique sur l'état de l'armée américaine avant Pearl Harbor. Le film n'aurait jamais eu lieu si cette réécriture n'avait pas été faite.
Vous êtes sur Radio G 101.5 FM. Nous abandonnons pour un petit moment Dominique Maison et son roman Avant les diamants. Promis, nous y reviendrons. Pour l'heure, vous entendez cette petite musique de fond ? Eh oui, c'est le moment de débattre autour d'un film. Nightfall de Jack Turner, d'après un roman de David Godis qui vient de sortir chez Rimini. Alors Luc, de quoi parle ce film ?
Nightfall ou 118 minutes de noir serré. Nightfall, en français, poursuite dans la nuit. On ne sait pas pourquoi, après avoir vu le film. C'est une histoire presque simple. James Vanning, magnifique Aldoré, est poursuivi par deux gangsters très très méchants. Parce qu'il s'est trouvé, par un complet hasard, en possession de leur butin. 350 000 dollars suite à une rencontre malencontreuse en plein hiver et en plein cœur du Wyoming. Mais il est aussi poursuivi par un agent de la compagnie d'assurance de la banque qui s'est fait dérober les 350 000 dollars en question. Réfugié dans une ville, James Vanning rencontre dans un bar Marie Gardner. Sublime, belle, étrange, mystérieuse, sublime, sublime Anne Bancroft et mannequin dans le film. Il va lui raconter son histoire, montrée à l'aide de flashbacks pour une fois totalement pertinents. Il est capturé une première fois et là on vérifie que les deux gangsters sont vraiment très très méchants puisqu'ils le menacent par exemple de lui écraser le pied avec un vilebrequin de puits de pétrole. Ça fait mal. Vous voyez le genre ? Il va réussir quand même à leur échapper et se réfugier chez Mary Gardner. L'hiver arrivant à son terme, il va décider de retourner dans le Wyoming pour récupérer le butin. Quelle chance ! Il va voyager avec Anne Bancroft dans un des fameux Greyhound. La chance, c'est Anne Bancroft, hein, pas le Greyhound. Aldo Ray, James Vanning, malgré son gabarit impressionnant et quasi mutique, et semble subir les événements. À l'opposé, il émane d'Anne Bancroft, tout en finesse et en fragilité apparente. En réalité, c'est elle qu'on devrait surnommer la brindille, une puissance sensuelle et une vraie détermination. Le film est de Jacques Tourneur, un Frenchie aux States, à cause de son père. Il tourne Nightfall en 1956 et en noir et blanc.
Yes.
Vanning.
Go away.
Please.
What do you want?
A few honest words.
From you?
There's an explanation, dude.
I don't want to hear it.
The only thing you'll hear is yourself talking. Start now.
You need a doctor.
Nice place. I'll try not to bleed over everything.
There might be one doctor I know I might reach at this hour.
Skip the milk of human kindness routine. Remember me? I've already been set up in Alley 1. I'm back from the wars, honey. I'm a vet. How'd you get tied up with those two? You don't belong in the picture with them, and you know it as well as I do. And money. Sure, that's why you did it. You did it for money.
Do you always answer your own questions?
And why did you help them?
I wasn't helping them. And so what if I had been? What difference would it make? You did something wrong, you were running away. And you are bound to be caught, that's all I know. That's all I want to know.
Are you being clever with me again?
Vous écoutiez un extrait de Nightfall de Jacques Tourneur. Il s'agissait d'une petite explication de texte entre Aldo Ray et Anne Bancroft. Merci Luc pour cette mise en situation. Linda, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce film ? Un personnage ? Une scène ?
Oui, alors Julien, je ne vais pas parler d'une scène en particulier parce que je ne trouve pas qu'il y en ait qui ressortent spécifiquement. Je trouve plutôt que c'est réussi globalement et hyper équilibré. Pourtant, on a quand même on pourrait avoir les poncifs, le beau gosse de service, la belle qui en tombe amoureuse, des gentils, des méchants, un gros costaud, etc. Mais je trouve que tout en étant dans presque les clichés de l'époque, et on tombe jamais dedans. Par exemple, alors on a des comédiens qui sont connus, alors même si les noms restent pas forcément pour tout le monde encore maintenant, bon, à part Anne Bancroft évidemment, la belle italienne, enfin d'origine italienne, qui est vraiment ce physique avec du caractère, mais elle est pas que le physique, elle occupe l'écran, elle rayonne, elle est bien plantée, même si elle est complètement très 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 légère dans la silhouette, mais elle a ce caractère là. On a Aldo Ray, qui a une belle, belle filmographie. Hein. Donc, dans le rôle du beau gosse, costaud. Et on pourrait frôler, effectivement, l'homme fatal, irrésistiblement lourdingue. Mais le jeu est très fin. On passe des moments de tension. D'un seul coup, il a un sourire de gamin qui colle avec un super texte. Donc ça s'est enlevé. Et là même, Brian Keith là, qui a un rôle très chouette aussi, qui a vraiment une liberté de jeu. En fait, c'est ça que je trouve qui est très réussi par Jacques Tourneur, c'est la direction d'acteur. Il y a une grande liberté de jeu et sa mise en scène. C'est vraiment un équilibre subtil entre tension et humour. Alors la mise en scène, le texte. Mais qui du coup il s'est vraiment bien emparé de ça. Ouais, c'est chouette. Alors il y a un côté qui m'a fait rire, qui est pas drôle, hein, dans le film, mais bon voilà, c'est fin des années 50, on est vraiment dans le bobonne à la maison, elles sont toutes épaisses comme des planches à pain et comprimées dans des, enfin comprimées, enserrées dans des, c'est dingue, t'as l'impression qu'elles sont épaisses, c'est même pas une ficelle quoi, dans des robes hyper enserré. Il y a un moment donné, donc le personnage d'Anne Bancroft, qui est donc cette mannequin, il y a le défilé. Donc elles sont toutes, voilà, avec la mode de l'époque, les talons, je peux à peine bouger les jambes. Son amoureux vient la chercher et il y a les grands méchants qui sont là. Donc on va avoir une course-poursuite et en fait, il y a des escaliers à monter et tout. Et elle ne peut pas écarter les jambes, donc il essaie de la soulever, il l'attend. Alors les grands méchants sont gentils, ils ne vont pas trop vite. Et puis il finit par en fait l'embarquer parce que ben voilà, elle ne peut pas courir, quoi. Elle ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Bref, bon, ça c'était... C'est assez... enfin, moi, je trouve que c'est un film qui réussit et puis qui a ce mérite d'être court. C'est un film d'1h15 à peu près. Et ça fait plaisir, un réalisateur qui n'a pas peur de couper et d'avoir un objet artistique comme ça qui est resserré et qui se regarde vraiment comme un souffle.
Quel régal que ce Nightfall en 118 minutes chrono. Tout est dit. Il y a du style, il y a de la classe, il y a une véritable élégance cinématographique. On est bien dans le polar. Les codes sont respectés. Le gentil qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Des vrais méchants, mais un peu bas du front. La femme qui va aider le héros et l'enquêteur mystérieux dont on découvre tardivement le rôle. Le film est étrange parce que apparemment lent. Jacques Tourneur réalise des vrais plans tout en longueur avec des dialogues intégraux. Le travail de la caméra est poussé au plus haut point. Panoramique verticale qui part d'une tasse pour cadrer les personnages en arrière-plan ou bien alors panoramique horizontale pour suivre un bus roulant sur une route enneigée. Travail subtil sur la profondeur de champ. Le noir et blanc est superbe et est aussi un instrument du film. Contraste entre la blancheur de la neige, presque surexposée pour les flashbacks, et le camailleux de gris dans la ville la nuit. Jacques Tourneur arrive à mettre en scène un paradoxe. La lenteur et le mutisme d'un comédien physiquement puissant dans une histoire efficacement menée. Le scénario, adapté du roman de David Goudis, y est sans doute pour quelque chose. C'est un polar, donc il y a du suspense. La scène finale, tout en économie de moyens, vaut le détour. Ce que peut faire une déneigeuse sans chauffeur est étonnant.
Pour une fois que tout le monde est d'accord, alors... Il faut le dire, Nightfall, c'est quand même la rencontre presque attendue entre Jacques Tourneur et David Goudis. Pourquoi ? Parce que le réalisateur américain est un maître du film de genre. On le connaît, nous, plus particulièrement pour des films fantastiques, pour les studios de la RKO, comme La Féline, Vaudou ou encore Rendez-vous avec la peur. Mais on ne doit pas occulter la griffe du passé. Un film noir de 1947 avec Robert Mitchum, Jan Greer et Kirk Douglas. Un film pour moi au panthéon du film noir. Et c'est ce film-là qui me fait dire que la rencontre entre Jacques Tourneur et David Goudis était incontournable. Le romancier américain est l'un des pères fondateurs de la littérature noire urbaine. Et Tourneur est un spécialiste du clair-obscur qui rend appréciable l'aspect nocturne de la ville quand la pègre se réveille. La trame du roman est un classique du genre, comme un peu pour Drive de James Salis. À savoir, un homme qui se retrouve avec une mallette et des ennuis et qui n'a d'autre choix que d'user de violence pour fuir la violence. C'est donc un classique du genre qui, ici, fonctionne à merveille. Et que dire du couple Aldo Rey-Anne Bancroft ? L'actrice géniale du lauréat est superbe dans son rôle de mannequin indépendante. Quant au mésestimé Aldo Rey, il suffit de se rappeler sa prestation dans Le Petit Arpent du Bon Dieu, d'après, cette fois, le chantre de la littérature rurale Erskine Caldwell, pour comprendre qu'il est le parfait acteur pour jouer un gars contrasté de la campagne parti se fondre dans la ville. J'ajoute que le final dans la neige avec une cabane isolée et un chasse-neige nous montre que Jacques Tourneur est un maître de l'angoisse. Alors les amis, j'imagine que vous validez ce film.
Oui, je trouve que ça vaut le coup parce que tous les rôles... Il y a une attention qui est portée à tous les comédiens. Je veux dire, même les gros méchants, il y a une finesse de jeu, ils sont touchants ou très particuliers. Celui qui ricane tout le temps, là, qui est... Et mais c'est pas caricatural. Rien que pour ce plaisir-là, je trouve que ça vaut le coup.
118 minutes pour un film, à peine plus qu'un moyen métrage, mais avec pour résultat l'essentiel sans aucune artificialité de scénario, moi, j'en redemande.
Nightfall de Jacques Tourneur, c'est en DVD chez Rimini et on vous le recommande chaleureusement. On reste dans le film noir avec Dominique Maison après cet intermède musical de Sam Cooke. Une petite explication au préalable et c'est parti.
Alors Sam Cooke, Change is Gonna Come, déjà parce qu'il apparaît dans le bouquin. Et que c'est pas très clair en fait, donc ça va être l'occasion de le lire. Il y a un personnage qui s'appelle Sam parce qu'à l'époque il est pas. C'est un jeune choriste dans les Soul Stirrers et il enregistre son premier album à Los Angeles à cette époque-là, de gospel, hein, c'est les gospel. Et lui, fort à penser qu'il devait traîner dans tous les clubs de Central Avenue pour aller chanter le soir et cachetonner, etc. Donc il apparaît un peu. Parce que j'adore Sam Cooke, parce qu'en ce moment, cette chanson aux États-Unis a toujours plein de sens et résonne de plein droit, de plein avec l'actualité et avec ses. Elle n'a pas pris une ride.
Alors, dans Avant les diamants, le roman de Dominique Maison qui nous accompagne, il va être question de la pègre et de son influence sur le cinéma. De quoi alimenter l'imagination de notre écrivain qui s'en explique.
Ça, j'aime beaucoup dire. Ça mérite sans doute des nuances, mais je m'en fiche. Je suis romancier, je ne suis pas historien. Mais chercher la différence entre le cinéma et la mafia, c'est vain, parce que c'est la même chose. Et au début, j'en suis absolument convaincu. Les premiers producteurs de films aux États-Unis, les tout premiers, C'est des cabanes de fête foraine dans lesquelles on passe des flickers, des petits trucs à manivelle. Cabanes de fête foraine qui sont tenues par la mafia. C'est des entreprises qui sont financées, elles appartiennent à la mafia, l'argent remonte à la mafia. Les premiers à avoir besoin de films, c'est ces gens-là. Ce ne sont pas des films, c'est des flickers, c'est des vignettes, des images animées de quelques secondes. Mais quand le truc se développe, que techniquement ça s'améliore, qu'on commence à mettre des tentes avec un écran pour faire projeter des trucs, ça se passe à peu près dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes. Les premiers exploitants de salles qui commandent des films pour alimenter leur salle, c'est comme ça que ça se passe, au début c'est la salle le moteur, hein. Ils commandent des films pour alimenter leur salle, c'est des mafieux. C'est pas des mafieux directement, mais ils participent d'une entreprise de mafia, c'est les copains d'école de Lucky Luciano et autres mafieux. Enfin, ils ont grandi dans les mêmes quartiers, dans le même coin, ils vont prendre les sabres à la face, ils ne veulent pas dire que c'est des gens monstrueux et malhonnêtes, mais... gravite dans cet univers-là. Et quand il est... De toute façon, les banques traditionnelles aux États-Unis, au moins jusqu'aux années 20, ne voulaient pas mettre un euro dans le cinéma, pas un dollar dans le cinéma. C'était une entreprise, c'était pas respectable, c'était pas sûr, c'était tenu par des gens louches, etc. Donc pour le financement du cinéma, ils n'avaient pas le choix. Il n'y a pas d'autre manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses. C'était soit la banque traditionnelle qui n'était pas là, soit les entrepreneurs traditionnels aussi de New York et de la côte est qui voulaient pas mettre d'argent là-dedans non plus. À part un ou deux mécènes de temps en temps pour faire œuvre d'art, mais encore, c'était la mafia qui finançait. Quand les premiers réalisateurs débarquent, 2000, enfin avant 2000, après, en fait, pour tourner les premiers westerns à Los Angeles parce que le climat s'y prête, la population de Los Angeles voit débouler des mafieux, hein, c'est les mêmes. Hein. Les parcs de Chicago avec leur manteau de fourrure, au lieu d'avoir des Thompson sous le bras, ils ont des caméras, mais enfin, c'est exactement les mêmes, ils les accueillent exactement comme ça. Hein. Pendant des années et des années, tous les commerces et restaurants respectables de Los Angeles sont interdits aux personnes qui travaillent dans le cinéma. Hein.
Avant les diamants de Dominique Maison à La Martinière, c'est un roman de genre avec les figures tutélaires de Eddie Lamarr et d'Errol Flynn. C'est un thriller à la sauce Don Siegel avec un final déroutant. Là aussi, je vous le recommande. On remercie bien fort Dominique Maison de s'être prêté au jeu de l'interview. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM et c'est maintenant l'heure de la chronique de Luc. On n'achève pas les classiques.
Il fallait placer cette chronique sous des auspices bienveillants. Alors, au regard du titre que lui a donné Julien, cela tombait sous le sens, commencer par Horace McCoy. J'aurais pu faire simple, choisir est-il le bon mot, son best-seller, On achève bien les chevaux. Non, cela aurait été trop simple et puis ce n'est pas un roman noir. Alors, j'ai jeté mon dévolu sur un titre, sachant qu'Horace McCoy n'a pas été très productif, seulement 6 romans, et parmi ces 6 romans, j'ai choisi Pertes et fracas, publié en 1953, et dans la série noire aussi en 1953, sous le numéro 171. Déjà le titre Pertes et fracas, honnêtement, pas terrible. Le titre original, Corruption City, était parfait. Un honnête français, même pas bilingue, pouvait parfaitement le comprendre. Parce que de corruption, il est bien question. Nemo Crespi était un petit voyou, et il est devenu chef d'une mafia, le consortium qui met la ville en coupe réglée. Il tient tout, y compris bien évidemment les hommes politiques, et veut soumettre les deux grands journaux pour achever son grand œuvre. John Conroy, jeune professeur de droit, se voit confier alors que tout le monde s'est défilé des pouvoirs spéciaux pour mettre un terme aux actions de Nemo Crespi. Il va réussir à se constituer une petite équipe dont Cicero Smith, ancien avocat déchu, et Amanda Waycross, fille de la juge Hélène Waycross, dont, attention, divulgachage, il va tomber amoureux. Et bille en tête, il va essayer de conduire sa mission à son terme, malgré les embûches. Son père qui est compromis, la juge-mère d'Amanda, elle aussi impliquée. Des enlèvements, des meurtres, jusqu'au recrutement par Nemo Crespi d'un tueur drogué jusqu'aux yeux pour éliminer John Conroy. Dans Pertes et fracas, tous les codes du roman noir sont réunis. Un méchant, vraiment méchant. Un gentil, faux naïf, qui va se transcender. Une équipe solide, aux compétences multiples, prête à tout, y compris en étant borderline. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt du roman ? Tout d'abord, la ville. Elle n'est pas nommée. Ce pourrait être Chicago, San Francisco, Baltimore ou même New York. C'est la ville américaine. Horace McCoy sait nous en faire ressentir toute l'ambiance. L'intégrité du héros. Horace McCoy va jusqu'à utiliser l'image de Don Quichotte avec Cicero Smith en Sancho Panza et Amanda en Dulcinée. John Conroy aura un moment d'abattement, mais ce sera pour mieux se relever. Le style. Même en traduction, il y a des phrases qui font mouche. Par exemple, le lendemain matin, un peu après 7 heures, ils étaient rassemblés à 100 km de là, dans un petit bureau d'un immeuble crénelé et crasseux, d'un style médiéval si affreux qu'il ne pouvait s'agir que du siège du gouvernement. Ou encore, détail curieux, Heemon Harrigan fit, en vomissant, presque autant de bruit que le revolver. Mais il y a plus que cela. C'est l'angle politique. Le roman est écrit en 1953, pendant le McCarthyisme. Horace McCoy ne cache pas ses sentiments par rapport à la société de consommation américaine et à la corruption de ses élites. On peut donc tranquillement le ranger aux côtés d'un Dalton Trumbo ou d'un Howard Fast. Mais finalement, qu'est-ce qui animait tous ces auteurs? Le besoin de dire une vérité de leur pays ou le besoin d'incarner la rédemption d'un pays qui a placé la liberté de ses citoyens au-dessus de tout et à n'importe quelle condition, une manière d'auteur sacrificiel finalement. Le titre, c'est Pertes et fracas, c'est de Horace McCoy, c'est publié chez Folio et c'est à lire sans modération.
Notre invité Dominique Maison plante le décor de son intrigue dans les années 1950. Il s'en explique et nous confie son admiration pour un certain Kirk Douglas.
Je n'ai pas le deuil de l'époque et je suis encore en plein dedans, donc c'est pas exclu que le prochain creuse dans cette veine-là. Donc pour l'instant, les premiers tours sont quand même très bons sur celui-là, donc je pense que j'ai peut-être trouvé un truc que je peux... Moi, personnellement, je me sentirais bien de continuer à travailler ça avec cette époque. C'est pas une obligation. Pour l'instant, j'ai toujours éprouvé un besoin de me renouveler, moi-même de m'étonner, de prendre plaisir dans la recherche de documentation et dans la découverte. Mais là, je fais pas le deuil du cinéma des 50s. Donc. C'est pas possible que j'y reste.
C'est quoi le film des années 50 qui t'a le plus marqué?
Alors, il y en a beaucoup. Là, en ce moment, j'ai envie de penser quand même ça aux ensorcelés de Minelli, parce qu'on vient, il n'y a pas si longtemps, on a perdu Kirk Douglas et qu'il est, comme il se doit, extraordinaire dans ce film. Je pense
Il y a des films où il n'est pas extraordinaire?
Non, je crois pas. J'en ai pas vu un.
Tu cherches
Non, mais même son premier, Le Champion, il est extraordinaire. Enfin, c'est un de ses premiers. L'emprise du crime, par exemple. Mais même à contre-emploi, avec Barbara Stanwyck, t'as vu, ça, c'est l'emprise du crime, où je me demande de titre, peut-être. Mais bon. Là, à contre-emploi, il joue le rôle d'un frère effacé, écrasé, manipulateur, efféminé. Contre-emploi, donc un Douglas quand même. Hein, il est extraordinaire et c'est un de ses premiers films.
C'est justement parce que c'est un de ses premiers films. Pourquoi s'est arrêté sur les choix de Eddie Lamar et Daryl Finn? Je mets de côté Clark Gable parce qu'il est là, mais il est en
Il est là parce que c'est un ami des deux en fait.
Ouais.
Donc, biographiquement, vraiment. Il est très proche des Rolf Lynn, il est très proche de Lee Lamar. C'est une figure tutélaire aussi que j'aime bien. Enfin, j'aime bien Gable. Donc, voilà, mais... Pourquoi Lamar? Les deux parce qu'ils me fascinent et que je les admire. Enfin, je les adore. Je suis un inconditionnel de leur personnage. Enfin, pas des films d'Eddie Lamar parce que comme on dit, ses films, c'est quand même pas ce qu'elle a fait de mieux. Mais sa vie est extraordinaire, son personnage est extraordinaire, elle est incroyablement belle. Elle incarne aussi une forme de liberté intellectuelle, sexuelle, physique, dans Hollywood à cette époque-là, qui n'était pas si commun. Sans le côté fragile et tragique qu'on peut avoir sur une Marilyn Monroe ou une Lana Turner. Elle est pas malheureuse, Eddie, depuis sa vie. Ouais. J'avais pas envie d'un personnage victime, j'en ai déjà pas mal de femmes victimisées dans le jeu, parce que l'époque est prêtée à ça. Je voulais moi avoir une figure féminine forte qui dépasse tout ça, qui transcende, qui fédère un peu autour d'elle aussi. Bon, il y a quand même la banquette aussi, hein. Il y en a quelques-unes des figures mais, qui sont des figures de femmes fortes, Dieu merci, il y en avait déjà à l'époque, même si à l'époque était terrible pour les femmes, pour les actrices, mais en avoir une qui émerge avec ce caractère fort, ça me paraissait utile. Et Rolf Lynn, je suis un inconditionnel des Rolf Lynn. Enfin, c'est un personnage de roman extraordinaire.
C'est Rolf Lynn, c'est celui qui a fait rêver le petit enfant qui est en toi, c'est ça?
Oh, ah, pas trop, parce que ce que j'aime chez Rolf Lynn, c'est aussi un peu sa dimension tragique. Mais alors oui, enfin, Robin des Bois, il est extraordinaire, évidemment. J'ai regardé Robin des Bois quand j'étais gosse, évidemment. Enfin, les films de pirates aussi, il est extraordinaire. Enfin, voilà. J'ai revu, il y a Gentleman Jim, il est génial dans Gentleman Jim. Et les films de toute fin de sa vie, je les trouve super émouvants. Les tout derniers, il est juste, et finalement, il montre qu'il aurait pu être un putain de grand acteur, en fait. C'était autre chose qu'un clown dans Collant, quoi. Il avait il aurait pu être un immense acteur. Mais la vie des Rolf Lynn, c'est un tel romanesque, enfin, genre, un trafiquant d'esclaves à 16 ans, chercheur d'or à 18, pris dans des embuscades et dans des fusillades où il tue des gens, enfin, je n'oublie pas son procès, pourchassé dans toute la Tasmanie parce qu'il a couché avec la femme du producteur, enfin, il a 17 ans. Hein. Il a commencé tôt, Errol. Hein. C'est un personnage. Il déboule dans le cinéma par hasard. Hein. C'est un aventurier. Il remonte avec son copain espion nazi là, qui lui voudra quelques années après. Lui, c'est comment aucune idée. Le Landais, là, il remonte en Inde, Macao, etc. avant d'échouer en Angleterre et de finir par faire du théâtre parce qu'il a une belle gueule. Et d'arriver à Hollywood par hasard. Hein. C'est un aventurier qui est tombé à Hollywood. Parce que l'aventure l'a porté là, mais il aurait pu avoir tout autre destin. Il n'a jamais eu particulièrement une vocation d'acteur, et Errol, il s'en fout. La vocation de vivre pleinement. Après, c'est aussi un personnage tragique parce que toute sa vie, en fait, il lutte contre la douleur. Quand il est gamin, il chope une infection des reins. Malaisie, ou je sais pas dans quel coin, dans les Philippines. Il a les reins bousillés, il a des problèmes de dos. Il est réformé par l'armée en 42 quand il souhaite s'engager dans l'armée. Parce que lui souhaite vraiment s'engager dans l'armée, contrairement à pas mal d'autres. Hein, c'est un aventurier, lui, partir à la guerre, c'est formidable pour Errol Flynn. Donc il veut vraiment s'engager, on lui dit non, là, votre état de santé, je ne prends pas de risque, vous resterez là.
We'll be right back.
dévoré. Parmi les très nombreux autres romans qui ont envahi les tables des libraires, voici notre top 4 du moment. Roulement de tambour. En quatrième position, Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin à la manufacture de livres. L'histoire se déroule dans l'est de la France avec une famille ordinaire qui se délite sur fond de maladies et de convictions politiques en désuétude. C'est écrit avec un joli style, sans trop de fioritures. Un roman court et prenant qui adopte une veine sociale, sorte de marque de fabrique de l'après-néo-polar. En troisième position, Le voleur de plumes de Kirk Wallace Johnson chez Marcelli. On est dans cette zone vague qu'est la non-fiction chère à Truman Capote. L'auteur s'est intéressé à un jeune musicien qui avait tout pour réussir dans la vie, sauf qu'il se retrouve à commettre un casse improbable dans le musée d'histoire naturelle de Tring en Grande-Bretagne et qu'il en ressort avec des centaines d'oiseaux morts qui aient été conservés. Tout ça pour vendre les plumes à ceux qui sont adeptes de la pêche à la mouche et qui rêvent de monter leur propre mouche suivant la Bible du genre. L'ouvrage se lit comme un polar et nous emmène bien plus loin qu'il n'y paraît. En deuxième position, Les Dynamiteurs de Benjamin Whitmer chez Gallmeister. L'auteur est un adepte des romans de très bonne facture. Avec celui-là, il nous emmène à Danvers dans les années 1880. Nous faisons la connaissance d'une bande d'enfants qui ont investi l'usine et qui entendent la défendre contre les têtes de nœuds, autrement dit les adultes. Ce conte de fées à la sauce Peter Pan est violent et assurément révélateur de ce qu'était le Far West à sa toute fin. Benjamin Whitmer est un maître de la narration. Enfin, autre roulement de tambour. En première position, Nickel Boys de Colson Whitehead chez Albin Michel. L'auteur multiprimé de Underground Railroad nous revient avec un fait divers qui fait écho avec une certaine actualité américaine. Il suit les pas d'un adolescent noir qui a tout pour réussir et qui a le malheur de vouloir faire du stop pour son premier jour à l'université. Il se retrouvera dans une maison de correction que n'aurait pas renié Charles Dickens et y subira des châtiments atroces. Colson Whitehead est bien plus sobre que dans son précédent roman. D'ailleurs, celui-ci est plutôt court. L'histoire est à la fois terrible et belle, et le final est digne des meilleurs thrillers. Incontestablement, l'un des romans de l'année.
Bonjour Julien et bonjour à tous. Eh bien oui, cette rentrée me brasse les neurones. J'ai les idées qui rebondissent. Et ça ne rebondit pas façon ping de la balle sur la table et pong sur la gomme de la raquette. Non, d'entrée, ça tabasse. Un roman, un film, une pièce de théâtre, un magazine direct dans ma face. Je commence par le roman de science-fiction. Alain Damasio. Ah oui, je sais. Mais non, ce n'est pas Les Furtifs. Mais La Zone du Dehors, écrit il y a plus de 20 ans. Et on allait du pied dedans. Ça nous parle d'une démocratie aboutie, car en paix, et la paix, bah, ça vaut bien qu'on s'assoie un peu sur nos libertés. Hein. Traçage, humains pucés, citoyens tous juges et jugés. À l'heure où on reçoit un texto en pleine manif pour nous avertir que c'est la dernière sommation avant la charge des CRS. À l'heure où les courageux réalisateurs du dimanche filment en loose dé les démasqués sur les marchés pour les dénoncer. Ça sent bon la France. Ça nous parle d'humains qui ont renoncé à l'être pleinement. Non pas qu'on vous empêche d'être vous, hein, non. On vous suggère, puis on vous suggère. On vous suggère, et on vous suggère encore et encore. Et peu à peu, on vous façonne les possibles. On vous fabrique. Pour aller plus loin sur le sujet, dans la fabrication des imaginaires, le hors-série Socialterre, avec Alain Damasio comme rédacteur en chef invité, justement. C'est très dense. Hein. Un des articles nous explique comment la plupart des GAFAM investissent des groupes de création. Ils achètent, entre guillemets, des écrivains de science-fiction pour écrire, réfléchir à un, des après, disons, pas précisément orienté vers la liberté, la sobriété et la connexion avec le vivant. Oh, surprise! Occupation du terrain, de la pensée, façon, pouvoir doux. Pour le bizarre et le pas normé, vous pouvez repasser. Hein. Mais ça nous questionne aussi sur la justification d'actes extrêmes. Les révolutions doivent-elles être implacables pour réussir? Et c'est directement le sujet du docufiction sur Nat Turner dont je veux vous parler. Ça s'appelle Nat Turner, le poids de l'héritage, réalisé par Charles Burnett. Nat Turner, figure complexe de la rébellion, 1831, USA. Esclave, il mène une révolte sanglante, le meurtre de maîtres blancs et de leur famille. Seule trace historique des faits, les confessions de Nat Turner retranscrites par son avocat. Nous sommes donc priés de le croire. Alors, fou de Dieu équivoque, homme broyé dans son humanité, résolu au plus profond de son être à faire cesser le crime généralisé de l'esclavage, nous avons des voix qui se succèdent, historiens, sociologues, représentants des droits civiques, acteurs, écrivains, hommes, femmes, noirs, blancs. Nous avons des avis qui se succèdent. Les meurtres d'enfants sont toujours horribles. Le jugement, c'est bien, c'est pas bien, montre des limites glissantes, débat interminablement insoluble. Si les rebelles avaient épargné les enfants, l'acte aurait-il eu le même impact? On sait exactement combien il y a eu de victimes, ainsi que leurs noms, ce qui permet d'honorer leur mémoire. Combien d'enfants noirs arrachés à leur famille, mutilés, tués, qui furent-ils? Glissade dans le temps, jusque dans les années 60, hop, James Baldwin, écrivain noir, encourage William Styron, écrivain blanc, à écrire ses confessions de Nat Turner au jeu, version romancée de l'histoire donc. Car James Baldwin, écrivain noir, songeait et souhaitait à être libre d'écrire au jeu avec un personnage blanc. James Baldwin, justement, qu'on retrouve dans le film ainsi que dans le livre qui l'accompagne. James Baldwin, auteur de la pièce de théâtre, dernier objet artistique que je souhaite évoquer ici. Cohérence quand tu me tiens. Alors la pièce vient d'être traduite en français et je dis merci à Julien de me l'avoir mise dans les mains. Blues pour l'homme blanc. Est-ce toujours vivre que de courber les chines dans la peur? Nous sommes en 1964, la ségrégation n'est pas encore finie et les personnages noirs ont mal à leur être humain. Mais les meurtriers blancs, par leur déni et leur violence, ne saccagent-ils pas aussi leur humanité? C'est nuancé, profond, brillant, l'homme l'était. Ça fait du bien. Quand on regarde le chemin depuis, et notamment la récurrence meurtre d'un noir par un ou plusieurs policiers blancs, suivi d'émeutes, ça fait pas du bien. Peut-on résister efficacement à coups de pétitions, de tracts, et manifester son envie de « pas content, pas content » et de « je veux être libre » mais seulement là où on nous dit de faire? Si vous avez quelques idées à soumettre, vous envoyez vos réponses à Julien. Bon, moi je vous le dis, cette rentrée me fait transpirer du dedans. À toutes.
Brève en série. Une version allégée du festival Mauve en Noir s'est déroulée ce week-end avec en guest star les romanciers Jean-Hugo Pell, Jackie Schwartzman et Nicolas Jaillet qui ont proposé à leur manière au public une joute oratoire. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du festival Mauve en Noir et ou sa page Facebook. Vous y découvrirez quelques heureux souvenirs. La Tête en Noir numéro 206 est maintenant disponible. Le fanzine Angevin de 16 pages continue à vous alimenter en romans policiers avec toujours autant d'enthousiasme. Là aussi, rendez-vous sur la page Facebook afin de récupérer votre exemplaire numérique. La revue l'indique, elle, a sorti son numéro 28 avec un dossier consacré au polar anglais, de la musique, des interviews et de l'érudition en pagaille. Toutes les informations sur le site de Fondue au Noir. Et pour retrouver le sommaire de l'émission Calibre 58, deux adresses, le site de Radio G et sa page dédiée à notre émission, et la page Facebook Calibre 58. Nous, on vous dit à dans 15 jours. D'ici là, cultivez-vous bien.
Angers, 101.5 FM.